bien, alors, il revient à François Matron et Yoshihiko Ishida de clore cette journée autour d'un exposé consacré à Althusser, et je leur passe tout de suite la parole.
C'est bon, là, comme ça ? Là, c'est bon ? Bien. Donc, je vais devoir dire ce texte plutôt que le parler pour une raison que je vais vous expliquer avant de commencer. Donc, justement, avant de commencer, deux mots sur les conditions de cette intervention. Lorsque Philippe m'a proposé de parler de la bibliothèque d'Althusser, ma première réaction a été celle de l'effroi. Comment quelqu'un de très affaibli par un accident cérébral pouvait-il envisager de participer à un exercice toujours, en tout cas souvent, éprouvant ? En quelques jours, j'avais oublié ma langue maternelle, dont l'usage, presque 5 ans plus tard, est encore assez incertain. Mais comment ne pas essayer, ne serait-ce que pour faire le point sur moi-même ? Mais il s'agissait aussi d'autre chose. Il s'agissait de bibliothèque, c'est-à-dire de mémoire et d'oubli, et d'Althusser, dont la correspondance est remplie de références à l'oubli. Oubli littéraire, oubli réel, entre guillemets, ou autre version de l'oubli. Dans une lettre à son ami Claire de décembre 1956, Althusser écrit ainsi. Je travaille régulièrement. Travail curieux, puisqu'il consiste à redécouvrir ce que j'ai déjà écrit, à apprendre ce que j'ai déjà fait. Très vite, l'idée de travailler avec Yoshi, dont je savais d'avance qu'il serait capable de remplir les vides de mon discours et d'en créer d'autres, s'était imposée. Nous étions partis de l'idée que la bibliothèque d'un type à part, a écrit en un seul mot, type à part, en un seul mot, pour utiliser une expression employée dans l'avenir dure longtemps, l'autobiographie d'Althusser, devait être une bibliothèque à part. Plus qu'une hypothèse, il s'agissait plutôt d'un clin d'œil à usage interne, juste pour pouvoir commencer. Néanmoins, notre intuition n'était pas sans fondement, mais pour des raisons assez inattendues. Ma première rencontre avec la bibliothèque d'Althusser, en compagnie de Yann Mouillet-Boutang, en 1993, a eu lieu dans une sorte d'immense souterrain, plus précisément une chambionnière du côté de Melun, où étaient entreposés les livres confiés à l'IMEC par de nombreux éditeurs. Dans l'immensité de ce labyrinthe, la bibliothèque d'Althusser apparaissait comme un point minuscule, mais précieux, où les passants pouvaient se promener librement. Pas d'inventaire. Nous aurions pu déplacer les livres à notre guise ou autre méfait. Cette bibliothèque était un peu la nôtre. Nous avions fouillé à la recherche de la pierre philosophique, en l'occurrence le diplôme d'études supérieures d'Althusser, finalement retrouvé côte à côte avec son ami Jacques Martin. Ce jour-là fut un jour faste. Nous avions aussi remarqué un certain désordre, mais la notion d'ordre est éminemment relative. Et surtout, ce problème n'était pas le nôtre à ce moment-là. Peut-être un an plus tard, je suis revenu sur ce lieu pour un travail plus terre-à-terre, relever tous les livres pour en retirer les notes prises par Althusser, désormais disponibles pour les chercheurs, incorporées dans le fond, dans l'inventaire du fond Althusser. Janvier 2010. Une fois cette proposition acceptée, que faire? Je me souviens vaguement qu'une personne avait travaillé sur cette bibliothèque de manière plus systématique. Renseignements pris auprès de l'IMEC, ce travail avait été fait au-delà de mes espérances. J'ai reçu un précieux fichier, la liste des livres et brochures formant la bibliothèque d'Althusser, ou du moins celle conservée à l'abbaye d'Ardennes, à Caen. Mais pas seulement une liste, des remarques précises permettant de savoir si ces livres avaient été lu, entre guillemets, par Althusser. Et aussi les dédicaces des livres envoyés par leur auteur à Althusser. Ainsi, pour les écrits de Lacan, on peut trouver ceci. Cher Althusser, nous voilà dans la même charrette. Tout de même, sur la route qu'on a choisie, c'est encore une chance vôtre. Et pour les livres de Foucault, on trouve, par exemple, deux exemples. Pour Histoire de la folie, pour Althusser, qui fut et demeure le maître, le pionnier, en témoignage de reconnaissance et d'admiration. Pour Naissance de la clinique, on peut trouver. Pour Althusser, qui m'a appris à lire et à voir cette lecture d'un regard naissant avec mon amitié. Deux exemples parmi beaucoup d'autres. Quand Althusser écrivait la préface de Lire le Capital, datée par lui de juin 1965, se souvenait-il de la dédicace de l'histoire de la clinique. Si, et Althusser se souvenait-il de cette préface lorsqu'il a retiré la préface des éditions les plus récentes de l'histoire de la folie, lui qui avait sans doute peu apprécié lire le Capital. Nous y avions parcouru ce fichier, étonné de voir dans la liste que le premier livre était un livre qui s'appelle comme ça, Le dernier puritain consacré à Glenn Gould, et que le dernier était libre essai marxiste, ou plus réel, d'un marxiste polonais dont je n'arrive pas à prononcer le nom, publié en 1963. Si le hasard en est sans doute la cause, le hasard ménage parfois d'étranges surprises. Mais pour construire cette intervention, il nous fallait retourner en arrière, au moment où la bibliothèque d'Althusser était encore dans l'appartement qu'il avait habité pendant tant d'années à l'école normale supérieure. Et il fallait préparer le voyage à Caen. Quel livre consulter pour en faire quoi? Le voyage virtuel pouvait s'interrompre pendant quelques semaines. Il n'est évidemment pas possible de reconstituer l'histoire de la bibliothèque d'Althusser. Il est en revanche possible d'apporter quelques éléments intéressants. Au milieu des années 60, Althusser avait acheté une maison, mais selon plusieurs sources, cette maison ne contenait pas de bibliothèque. Althusser transportait les livres dont il avait besoin pendant ses vacances. Il avait donné en 100 et 200 livres à la bibliothèque de l'école normale, selon Yann Moulier-Bouton. Peut-être avait-il donné d'autres livres à l'école, mais il est impossible de le savoir. Et c'est très bizarre, parce que, en fait, il n'y a plus de traces du tout. Et comme Philippe m'a parlé, c'est exactement pareil, il n'y a plus de traces du tout. Après le meurtre de sa femme, Hélène, en 1990, Althusser a quitté cette école sans retour possible. Quelques proches se chargeront du déménagement de son appartement. Des humiliations particulièrement pénibles, et l'école voulait tirer un trait final le plus rapidement possible sur cette affaire, comme on dit. Pour ce qui concerne sa bibliothèque, les livres et revues ont été transportés dans un appartement privé, sans tri préalable. Il avait toutefois demandé à un ami de faire discrètement disparaître la multitude de revues pornographiques qu'il avait entreposées dans son bureau. Il n'est pas sûr que ce manque ne soit une perte. Mais il est possible, mais il semble être irrémédiable. La bibliothèque a été ensuite reclassée autant que possible, suivant l'ordre adopté par Althusser, Rudulf, mais cet exercice étant hautement difficile. Et les conditions étant particulièrement hasardeuses, le classement final, entre guillemets, de cette bibliothèque doit beaucoup au aléa d'une conjoncture défavorable. Pour moi, le moment du voyage à Caen était arrivé. 3 jours à la fois agréables et productifs, où j'ai pu consulter les livres dont j'avais besoin. J'ai aussi visité la bibliothèque d'Althusser, mais ce nom est-il le bon mot? J'ai vu à Melun une bibliothèque en attente de son destin, donc fragile, mais elle était rangée sur des étagères, comme à l'air libre. Si aujourd'hui elle est à l'abri de tout danger, rentrée dans un fichier électronique, les livres sont désormais conservés dans des cartons, faute de place. Dernier rebondissement. Au moment de partir, j'ai eu confirmation que ce passage au virtuel avait provoqué quelque chose comme un nouveau désordre, pour une raison que je ne connais pas ou que je ne veux pas connaître. Et à l'époque, on ne faisait pas de manière systématique de photographie des bibliothèques permettant, entre autres, de prévenir ce genre de désagrément. Pourtant, loin d'être inquiet, attristé pardon, par cette révélation, j'avais tendance à m'en amuser, sans trop savoir pourquoi. Mais nous sommes en septembre, et même maintenant en octobre, à dire. Et ce colloque approche, le moment de travailler ce fichier est venu. Environ 5500 livres ou revues, ce qui est assez peu, mais il ne faut jamais oublier qu'Althusser avait à demeure une deuxième bibliothèque, celle de la Redoute, dont il empruntait de nombreux livres, mais lesquels? Impossible de le savoir. Il est assez surprenant de voir à quel point la littérature occupait une place si mince dans la bibliothèque d'Althusser, lui, un homme si cultivé et amateur de romans. Mais Althusser n'a pas toujours habité à l'école. Il faut bien naître et grandir quelque part, et pas dans une bibliothèque. Une chose est sûre, si la philosophie, au sens classique du terme, jouait un rôle important, elle était loin de jouer le rôle principal. Non seulement Althusser aimait dire qu'il avait oublié ce qu'il avait connu, mais il est prétendu être purement et simplement un ignorant. Toute sa bibliothèque montre évidemment le contraire. En revanche, sa bibliothèque contenait assez peu de livres, de commentaires sur tel ou tel auteur ou doctrine philosophique. Althusser a toujours dit qu'il n'était le spécialiste de personne. Son Montesquieu commence ainsi. Je n'ai pas la prétention de rien dire de neuf sur Montesquieu. Et le début de Machiavel et nous redit en substance la même chose. La vraie passion d'Althusser était bien celle de la politique, à la fois la philosophie politique et la politique tout court. Mais pour lui, faire de la politique, c'était militer dans le Parti communiste français, dans une période bientôt marquée par une rupture au sein du mouvement communiste international. Le nombre de livres de Marx, Lénine et Mao est considérable, beaucoup moins que ceux d'autres auteurs marxistes. Et le nombre de livres de conjoncture est également considérable. Mais un lecteur d'Althusser n'avait pas besoin de connaître cette bibliothèque pour le savoir. Il suffisait de lire cette lettre de Franca du... Lettre de Franca, 1967. Je suis convaincu, à mon grand regret d'ailleurs, que je ne suis pas un philosophe, je suis un agitateur politique en philosophie. Relis. Je suis convaincu, à mon grand regret d'ailleurs, que je ne suis pas un souligné philosophe, je suis un agitateur politique en philosophie. Plus intéressant, me semble-t-il, pour comprendre la manière de travailler d'Althusser et d'insister sur le nombre de revues avec des collections souvent importantes, sinon complètes, entreposées dans sa bibliothèque. Revues plus ou moins rangées ensemble, en tout cas beaucoup plus que ses livres. Quand Althusser avait envie de consulter un article, il n'avait sans doute pas trop de mal à le retrouver. En revanche, il aurait eu plus de mal à retrouver le livre bizarre, Chambidian d'Europe, au milieu des numéros de la revue Cahiers marxistes-léninistes. Les revues philosophiques n'étaient pas les plus nombreuses, mais elles étaient présentes. Par exemple, la revue Recherche Hegelienne ou la revue de métaphysique et de morale, très lue par Althusser. Ensuite, on trouve les revues qui structuraient les débats de son époque, non datant des temps modernes, et beaucoup d'autres, avec une attention particulière pour les revues de psychanalyse. Enfin, il faut faire une référence spéciale à toutes les revues politiques liées au mouvement communiste français et italien, mais aussi des revues beaucoup moins dans la ligne, comme on dit, comme Socialiste et Barbarie. Il est de loin les plus nombreuses dans la bibliothèque d'Althusser. À l'évidence, Althusser était un homme de revue. C'était pour lui une manière d'être un homme de son temps, d'être en phase avec le monde, de ne pas être seul, ce qui est l'un des grands fantasmes, être seul. Mais revenons pour finir sur ce qui est peut-être le plus intéressant en nous aidant du fichier déjà mentionné. Certains textes ont été très lus et travaillés, ce qui correspond à des remarques sur le fait comme exemplaires entièrement travaillés. Par exemple, tous les livres de Foucault, beaucoup de livres de Marx ou de Lénine, certains livres de Kant, de Spinoza, de Platon, de Machiavel, de Platon, d'Aristote aussi, mais aussi de Raymond Aron, ou encore de Wagner-Rocher, ou de Rouet-Garonne, ou même de Jdanov. Mais les livres ne sont pas très nombreuses, moins de 200 selon ce fichier. En revanche, les remarques témoignant d'une lecture partielle des livres sont très nombreuses. Par exemple, tome légèrement travaillé, livre travaillé dans l'introduction, livre à peine travaillé, surtout dans le premier tome. Dans l'avenir du longtemps, Althusser décrit sa méthode de travail. Très particulière. Celle de la carotte philosophique. C'est-à-dire procéder par sondage profond dans une pensée. On n'est évidemment pas obligé de croire Althusser sur parole. Loin de là, il n'en reste pas moins vrai que l'exploration de sa bibliothèque a plutôt tendance à confirmer ses affirmations. Néanmoins, il finit. Néanmoins, un fichier n'est qu'un fichier. Et la bibliothèque d'Althusser est désormais dans des cartons, peut-être pour toujours, ou tout au moins pour longtemps. Mais plutôt que de demander une réouverture de sous ces cartons, mieux vaut laisser la parole à Yuchi.
Bon, je commence. Donc, permettez pour moi aussi de lire un texte pour une raison évidemment différente de François. Bon, relisons encore une fois la lettre de Althusser adressée en 1956 à son ami Claire, pour en faire le fil conducteur dans notre propos. Je travaille régulièrement, travail curieux, puisqu'il consiste à redécouvrir ce que j'ai déjà écrit, apprendre ce que j'ai déjà fait. Alors, ce qu'il dit de nouveau dans son travail, il doit l'avoir déjà dit d'une façon ou d'une autre, et pour reprendre le mot de la tradition marxiste, s'autocritiquer constamment sur le fait qu'il oubliait qu'il savait en réalité ce qu'il dit maintenant. Autocritique curieuse, puisqu'il est impossible de décider ce qu'il sait au fond à tel ou tel moment, et donc s'il le sait vraiment. Alors qu'une autocritique normale dit « je ne savais pas telle chose », cette autocritique confirme « il la savait déjà ». Autocritique, c'est pour Althusser et ses lecteurs une notion particulière, car il a écrit un livre qu'il affichait dans son titre, Éléments d'autocritique, livre publié en 1972. Et en ce temps-là, il avait déjà écrit certains textes autocritiques sous la forme des préfaces pour les éditions étrangères de ses deux livres de 1965, Pour Marx et Lire le Capital. Cette autocritique publique de Althusser démontre sûrement l'aspect paradoxal de son oubli. Elle a consisté, selon lui, à rectifier l'erreur de son théoricisme, qui définissait la philosophie comme théorie des pratiques, théorie, et donc le côté pratique, théorie des pratiques, qui définissait la philosophie comme théorie des pratiques théoriques, ignorant le primat de la pratique politique même dans la théorie. Et donc le côté pratique et politique de la philosophie elle-même. L'autocritique a dû dire au lecteur que les livres ne reconnaissaient pas pleinement le primat de la pratique sur la théorie. Mais dans une lettre datée du 6 décembre 1967, Althusser, évoquant le commencement de l'autocritique en octobre de la même année, parle du même oubli que dans sa lettre à Claire. Chemin faisant, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je savais, mais que je ne savais pas que je savais. À partir de là, quelque chose a commencé à virer. Fin de citation. C'est tout comme pour dire qu'il connaissait déjà le primat de la pratique et l'ère du théoricisme, et que, relisant les deux livres, il a découvert qu'il les connaissait déjà. En fait, au moins l'exemplaire de Pour Marx, conservé dans la bibliothèque, est entièrement travaillé par son auteur, comme si c'était un livre d'un autre. En plus, dans un texte achevé, mais finalement abandonné, avant que l'autocritique n'ait commencé, il parle explicitement de l'erreur du théoricisme. Le terme y a été introduit pour désigner une erreur possible de n'importe qui, sauf lui, qui connaissait si bien le principe du primat de la pratique politique dans la théorie. Je cite, « Sans la double conscience, 1. du primat de la politique dans la philosophie elle-même. 2. Des exigences théoriques proprement philosophiques, du traitement philosophique de ce primat, les philosophes marxistes risquent de tomber en soit dans le théoricisme qui ignore toute lutte des classes, 2. Soit dans le pragmatisme qui ignore toute la spécificité de la théorie et de la philosophie et de ses exigences scientifiques. Fin de citation. Le texte a fait passer pour Althusser, qui en avait achevé la rédaction, en était très rude du point de vue théorique, selon la même lettre de décembre. Il se termine en outre avec une citation de Lénine, en un sens extrêmement théoriciste. Je cite, « La théorie marxiste est toute puissante parce qu'elle est vraie. » La lettre évoque, comme ce qui ne tournait pas rond dans ce texte abandonné, le rapport de la théorie avec la pratique politique. Mais cela discutant longuement sur l'union de la théorie et de la pratique, qui est la tâche historique des marxistes, il nous faudrait, nous les lecteurs, en mesure aujourd'hui, de comparer le texte et les divers articles autocritiques, dire que ce dont Althusser s'est avisé en pensant en était tellement rude que l'autocritique en serait née tout de suite, c'est seulement qu'il est difficile d'avoir la double conscience du primat de la pratique politique et de la spécificité de la théorie, c'est-à-dire de maintenir toujours l'union juste de la théorie et de la pratique. Mais encore, une question s'impose. La dite union était-elle censée être facile, assurée? Elle constituait une tâche historique à remplir stratégiquement et donc était absente dans la conjoncture politico-théorique. La Althusser de ce texte-là prenait déjà le rapport de la théorie avec la pratique politique pour ce qui ne tournait pas rond et ne savait pas qu'il le savait. Chose la plus curieuse, cet oubli a eu pour effet de permettre à Althusser d'anticiper sur une critique qu'il subirait brusquement de la part d'une autorité intellectuelle plutôt droitière. Il s'agit d'un article de Raymond Aron, intitulé « Althusser ou les lectures pseudo-structuralistes de Marx » et publié en 1969 dans son livre « D'une sainte famille ou à l'autre » et c'est sur les marxismes imaginaires. La critique d'Aron concerne essentiellement deux points, trouvés selon lui dans des articles de Pour Marx et Lire le Capital. Pour le premier, la définition effective du matérialisme dialectique, comme théorie des théories ou philosophie, dont n'importe quelle science constitue un chapitre, et qui établit donc, à titre de science des sciences, les principes valables pour toutes les connaissances régionales. Pour le deuxième, Althusser ignore, insistant sur la rupture du capital avec l'humanisme théorique, la subsistance de la dialectique hegélienne dans le capital, et n'ajoute rien à l'économique politique classiquement marxiste. D'un mot, il invente un marxisme imaginaire. Mais le premier point n'est que ce qu'Althusser lui-même considère partout dans des textes autocritiques comme constituant le théoricisme, quitte à oublier qu'une telle critique sur la conception spéculative de la philosophie remonte chez lui, en réalité, aux années 50. Pour le deuxième point, il suffit de citer une phrase de sa note datée du 15 novembre 1967. Je cite, « D'une certaine manière, nous aurions projeté sur le texte original de Capital une philosophie marxiste constituée ultérieurement. Engels, Lénine et tatatata par nous. » En faisant semblant de croire qu'elle existait déjà à l'état pratique dans le texte scientifique de Marx. Fin de citation. Phrase qu'on pouvait lire telle qu'elle dans le livre d'Aron de 1969. Cela expliquerait qu'Althusser puisse s'accorder sans grande difficulté avec Aron dans ses dernières années. Je cite, « Raymond Aron n'a pas tout à fait tort de parler à mon sujet, comme à celui de Sartre, de marxisme imaginaire. » Je le cite de son autobiographie « L'avenir dure longtemps ». À vrai dire, ce n'était pas une anticipation. L'article d'Aron a été écrit à l'encroix pour l'essentiel en août 1967, c'est-à-dire juste au moment du virement d'Althusser. Notre philosophe savait donc à son insu ce qu'Aron pensait de lui au même moment. Il ne savait pas encore qu'il était d'accord avec Aron et connaissant la critique d'Aron en 1969, il devait découvrir qu'il ne la connaissait pas et en même temps la connaissait. S'il en est ainsi, la plainte d'Aron dans ses mémoires de 1983 n'a sûrement pas été sans raison. Je cite, « La brochure sur le marxisme d'Althusser tomba dans le vide, dans le silence. Ni Althusser ni les siens ne jugèrent que mon texte mérita une discussion. » point de citation, la discussion s'était déjà faite non entre lui et Althusser, mais dans Althusser. La bibliothèque personnelle d'Althusser met pourtant en scène, en jeu, les deux philosophes s'introduisent directement. Elle conserve un exemplaire d'une sainte famille à l'autre, dédicacé par son auteur à notre philosophe avec ces mots. Pour lui, Althusser, avec l'espoir que cette critique coïncide particulièrement avec l'autre critique qu'il prépare, avec des sentiments sincèrement amicaux, Raymond Aron. C'est qu'en 1969, année de parution de Libre, Aron savait qu'Althusser préparait son autocritique. L'année où ce dernier n'avait pas encore publié de texte autocritique en France, Aron connaissait le fait et devinait correctement quel serait essentiel de cette autocritique dans quelques années. Althusser ne devrait pas ne pas évoquer la critique d'Aron dans l'autocritique qu'il préparait, et en même temps n'aurait pas à le faire parce que, comme nous l'avons constaté, il savait alors déjà ce que disait Aron. La rencontre espérée par Aron a manqué peut-être parce que le livre dédicacé a témoigné à Althusser qu'il s'était réellement déjà passé. Il s'était passé réellement pour Althusser. La bibliothèque et les archives en témoignent d'une autre façon, ou le font témoigner par une troisième personne y figurante parfois. Antoine Augustin Cournot, qui par ailleurs, sauf des spécialistes de l'histoire de l'économie politique ou des mathématiques, se souvient de cet homme du 19e siècle qui a enseigné des mathématiques et l'économie au père de Léon Valras et qui, en outre, a amené Valras le fils à l'économie mathématisée. Pour Althusser non plus. Il ne doit pas être un auteur qui lui était directement familier par ses livres, dans quelque temps de sa vie que ce soit. Tout en conservant trois œuvres, il n'a lu partiellement que les œuvres complètes éditées en 1975. Les deux autres, assez anciennes, de 1922 et de 1934, ne laissent aucune trace de lecture. Mais le nom de Cournot, nous pouvons le trouver cité d'une façon impressionnante dans ses manuscrits ou notes depuis des années 50 jusqu'au dernier jour de sa vie. L'exemple le plus frappant se trouve dans le dernier Althusser, comme on dit parfois aujourd'hui. Là, Cournot est une figure conceptuelle formant, avec Épicure, Malebranche et surtout Machiavel, la constellation du matérialisme de la rencontre ou du matérialisme aléatoire qui doit se substituer non comme la philosophie marxiste, mais comme une philosophie pour le marxisme, au matérialisme dialectique. Citons seulement une phrase. Il n'est de rencontre qu'entre des séries d'êtres au résultat de plusieurs séries de causes. On pense ici à Cournot, ce grand méconnu. Fin de citation. Pour résumer la chose, la lutte sert de ce matérialisme mettant parallèle Marx, racontant la rencontre entre les hommes aux écus et le travail au libre, dans l'accumulation primitive des capitaux, et Cournot comme théoricien de l'événement, hasardeux par nature, et au point de croisement de deux séries causales. Il va sans dire que la pluie des atomes tombant dans le vide et le clinamen de advenant là soudainement, cette image venant d'Épicure, entièrement ce matérialisme. Mais Épicure et Cournot se sont déjà rencontrés chez Althusser, au moins en 1966. Dans une note de l'année, il parle sûrement de, je cite, « théorie de la rencontre ou conjonction », c'est-à-dire Genèse, CF, Épicure, Clinamen, Cournot. Débiation, théorie de la débiation, CF, Épicure. Hasard, etc., précipitation, coagulation. Fin de citation. Au niveau des textes plus ou moins publiés, Cournot n'est évoqué modestement en 1966 et 1968, que comme théoricien du rationalisme empiriste, où la philosophie française du XIXe siècle, dominée alors par le spiritualisme religieux et réactionnel, a enfoui dans l'oubli, selon Althusser. Mais la rencontre de Cournot et d'Épicure, deux fois en espace de 20 ans, nous fait plutôt penser que ce matérialisme économiste du XIXe siècle n'a pas cessé en réalité dans le courant souterrain d'Althusser, qui poursuivait la théorie de la théorie de la rencontre ou conjonction d'être en grand index. La question se pose alors, d'où vient Cournoy à Lutzer, qui n'a pas dû le lire directement au moins en 1966. En est de la première rencontre constatable de Cournoy et d'Épicure. C'est à cette question-là que la bibliothèque et les archives donnent une réponse de type à part. C'est sans aucun doute le livre de Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, sa thèse de doctorat, publiée en 1938, qui a appris Cournoy à Lutzer. Il ne sera excessif de dire que, pour cette raison même, Lutzer n'a évoqué le nom de Cournoy dans ses textes publics que modestement. Comment, en fait, un philosophe marxiste pourrait-il reconnaître la dette théorique à Aron, ce critique acharné de marxisme, le journaliste selon Lutzer? Il a pris en réalité la note de lecture détaillée de 73 pages sur le livre d'Aron en 1953, selon la biographie de Yann Mollier-Bouton, dans le contexte de son débat avec Paul Ricoeur. Ce contexte mis à part, la note se précipite, pour commencer, sur la question de savoir ce que nous, marxistes, pouvons retenir de Kant. Et il donne immédiatement une brève réponse. C'est que toute science se constitue un certain niveau d'objectivité. L'ensemble de la note est en fait centré sur la question de l'objectivité historique. La question qui fait découvrir à Lutzer un Cournoy dans Aron. Prenant la note, il cite mot par mot ce dernier paraphrasant Cournoy. Toute succession n'est pas historique. Il faut croire qu'elle ne s'explique pas intégralement par des lois. Le fait historique est, par essence, irréductible à l'ordre. Le hasard est le fondement de l'histoire. Fin de citation. Le livre d'Aron nous fait lire, tout de suite après cette phrase, un passage suivant qu'Altser n'a pas retenu dans la note. On connaît la définition du hasard que propose Cournoy. Rencontre de deux séries indépendantes, rencontre d'un système et d'un accident. Nous aboutissons ainsi à un deuxième concept d'histoire. Les événements qu'on appellera accidents, hasard ou rencontres, qui se produisent plutôt qu'ils ne se sont et qui échappent définitivement à la raison. Fin de citation. Passage qu'on pourrait lire tel quel dans des pages où Althusser parlera du matérialisme de la rencontre. Il serait digne de remarquer encore une fois la date de la note. C'est en 1953. Althusser, concevant sa dernière philosophie, oubliait-il le fait ou a-t-il redécouvert qu'il oubliait, qu'il connaissait déjà le matérialisme de la rencontre, qu'il l'avait rencontré dans Aron Cournoy? Force nous est alors de poser une autre question. Pour Althusser, Antoine-Augustin Cournoy était-il un prête-nom de Raymond Aron dans son échange imaginaire et réel avec Aron? Un prête-nom pour cacher le vrai dialogue tenu discrètement dans la bibliothèque. L'introduction à la philosophie de l'histoire, qu'Althusser a lu très attentivement, nous fait savoir qu'Aron estime Cournoy, d'une part, pour sa définition de l'objectivité historique comme hasard ou événement, mais le critique d'autre part, pour sa conception du rapport entre hasard et ordre. Je cite, Cournoy, en fait, se borne à formuler l'idée banale traditionnelle. Au-delà des hasards, on saisirait un ordre qui rendrait intelligible le chaos qui s'offre d'abord à l'historien. Celui qui regarde de haut un paysage aperçoit, dans le grand trait, le cours des fleuves et les lignes de relief. Ainsi, en s'élevant au-dessus des détails, le philosophe parviendrait à dégager les raisons du mouvement d'ensemble. Fin de citation. Les lecteurs de Pour Marx peuvent y trouver immédiatement une critique du type qu'Althusser introduira dans cela pour écarter le rapport hégélien entre contingence et nécessité, la ruse de la raison, sous les sens élevés se réalisant à travers la foule infinie des hasards, et pour définir, à contre-pied, la surdétermination entre instances sociales, entre contradictions, plus ou moins nécessaires et plus ou moins contingentes. C'est-à-dire la détermination d'un type singulier U, pour reprendre une expression célèbre du livre, l'or solitaire de la dernière instance ne sonne jamais. Et où finalement, l'exception se découvre. La règle de la règle. l'exception est immédiatement la règle même. Mis à part la question de savoir si ce type de détermination renvoyant à l'époque structuraliste de Louis Althusser est vraiment définissable, sans aucun recours à contre-pied de Hegel. En tout cas, lisant le livre d'Aron, ou si le relisait en écrivant des articles de pour Marx, Althusser aurait pu penser qu'il pouvait esquiver une attaque possible d'Aron, lui posant la même sorte de question. Parce qu'Aron lui-même ne semble pas, dans sa thèse de doctorat, embarrassé du tout par elle. Je cite, « La recherche serait un cercle. On détermine la possibilité objective par élimination des accidents. On détermine l'accident par référence à la possibilité objective. Ce cercle nous paraît à la fois indiscutable et non vicieux, car les deux démarches, établissement des généralités et explication de l'événement, sont solidaires l'une de l'autre. Une fois mise au jour une relation adéquate, elle est utilisée pour fixer l'efficacité des circonstances exceptionnelles dans tel exemple particulier. » Fin de citation. Aron appelle cette relation adéquate entre hasard et ordre, accident et impossibilité objective, structure fortuite. Elle la détermine comme une fiction. Tout en étant fictive et fortuite, la structure doit être supposée réelle chez Aron, à chaque moment de l'histoire, pour qu'on puisse la connaître ou croire la connaître. Fictif comme pour Althusser, relisant d'une façon autocritique pour Marx, le concept de surdétermination, à partir duquel il a dû inventer la philosophie de Marx, et fortuite comme, pour lui, toute sa vie, la conjoncture, qu'elle soit dite surdéterminée ou aléatoire. Et pour les deux théoriciens de l'histoire, l'objet final de la connaissance historique est de même l'événement exceptionnel, dont la révolution de 1848 pour Aron et de 1917 pour Althusser, dont l'exemple typique. Lisant d'une sainte famille à l'autre et se souvenant d'introduction à la philosophie de l'histoire, Althusser aurait pu demander à Aron, face de même à cet objet, comment le structuralisme fictif peut-il dénoncer le marxisme imaginaire. La réponse à la question posée par nous serait alors: Althusser n'avait pas à discuter d'un pour Marx avec un prête-nom, parce que la discussion était plutôt directe. La bibliothèque en témoigne en tant qu'un double de philosophe, et donc le philosophe lui-même à part. Pour terminer, mieux vaut, au lieu d'en tirer une conclusion générale, laisser parler à cette carotte philosophique citée par François tout à l'heure, carotte philosophique qui, annulant l'ordre chronologique, étage Althusser et Aron l'un sur l'autre. Elle n'est qu'un cas singulier que l'enquête de la bibliothèque met au jour, mais pour un spinoziste, Althusser, le cas singulier devait être un soi universel par sa capacité de demeurer propre.